Chapitre 80. La porte arrière droite du camping-car s'ouvrait vers l'extérieur, de sorte qu'elle protégeait les deux femmes à la vue des automobilistes circulant sur l'autoroute. Egon Uri Litvinov, avec son crâne rasé, son diamant à l'oreille et son cœur criblé d'éclats osseux, avait décidé de résister dans la mort. Les 100 kilos de méchanceté pure qui habitaient son cadavre donnaient presque le sentiment d'être animé tant il se montrait rétif à toute idée de transport, comme si son esprit désincarné s'évertuait à regagner sa chair. Après avoir péniblement sorti le corps du camping-car avec l'aide de Sandra, Jane coula un regard en direction des voitures qui filaient tout phare allumé sur l'Interstate 40, dans l'attente d'une pause dans la circulation. À l'exception d'une bande violacée couronnant l'horizon vallonné vers l'ouest, le ciel étoilé était noir, la lune pâle. Un énorme camion passa en hurlant, sans personne dans son sillage. Les deux femmes, tirant et portant le cadavre jusqu'au talus, le déposèrent sur la glissière de sécurité où il donna l'illusion, plié en deux, de rendre un trop-plein d'alcool. Puis elles le saisirent par les pieds et le firent basculer dans le ravin où il roula avant de s'immobiliser sur le dos en contrebas. La pluie des cailloux dérangés par sa chute le repoussa sur le flanc et l'entraîna plus loin encore. Plus lourd que les pierres sur lesquelles il roulait, il prit de la vitesse et disparut dans l'obscurité, sa chute rythmée par le battement de ses bras et de ses jambes. Les deux femmes suivirent son périple à l'oreille, jusqu'à ce qu'il se fige enfin en pleine broussaille. Le faux enfant de cœur, Lucius Kramer Bell, dûment délesté de ses papiers, devait peser une bonne vingtaine de kilos de moins que Litvinov, de sorte qu'il se montra plus coopératif dans la mort que son complice. Profitant d'un autre répit dans le flot des voitures, Jane et Sandra le portèrent à son tour jusqu'à la glissière de sécurité et le précipitèrent dans le vide. Par un tour de magie physique, ou bien peut-être du fait de sa morphologie, Bell roula le long de la pente en position assise, à la façon d'un enfant glissant sur la neige, porté par le souvenir en voie d'extinction d'un moment heureux de sa jeunesse. Il disparut à son tour dans l'obscurité avec une aisance macabre et suivit Litvinov dans son lit de broussailles. Jane, qui avait pris la précaution de retirer son manteau pour ne pas le salir, constata qu'elle avait du sang sur les doigts. Debout sur le seuil de la salle de bain, elle attendit que Sandra se soit lavé les mains à l'eau brûlante, ses traits marqués par la mort alors qu'elle s'était contentée d'aider sa compagne à se débarrasser des corps. Les fillettes étaient restées en compagnie de leur grand-mère dans le coin cuisine, à l'écart de la manœuvre. Elles dormiraient cette nuit-là par terre dans le salon, à condition qu'elles parviennent à trouver le sommeil. Sandra sortit de la salle de bain en saisissant une serviette au passage, et Jane prit sa place devant le lavabo, afin d'enlever ce qui restait de Litvinov et de Bell sur ses mains. Les deux femmes n'avaient pas échangé un mot pendant leurs ablutions. Soudain, Sandra prit Jane dans ses bras et la serra contre elle. Jane lui rendit son étreinte et elles restèrent un long moment l'une contre l'autre, dans le plus profond silence, la mère de Lorraine et Holly incapable de traduire en paroles le tumulte de ses émotions, la mère de Travis peu soucieuse de les entendre. Elle avait pu voir comment cette femme avait pris possession à son corps défendant de la vérité d'un monde que la majorité de ses semblables refusaient de connaître tout au long de leur vie. La vérité, une fois acquise, ne peut sombrer dans l'oubli et s'imprime à jamais dans le cœur des initiés qu'elle plonge dans un monde d'obscurité.